La Voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 1er mai 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, Soudan du Sud, Washington souhaite la fin des combats et l'accès à l'aide humanitaire. Et vive émotion à Bangui suite au meurtre d'un journaliste du quotidien Le Démocrate.
Le confrère rentrait tranquillement à la maison lorsqu'il a été pris à partie, selon lui, par 5 musulmans au niveau du lycée de Fatima.
On écoutera notre confrère Thierry Mbomba. Un chef historique de la rébellion en Casamance appelle à un cessez-le-feu. La Russie appelle à des négociations entre Kiev et les séparatistes pro-russes dans le sud de l'Ukraine. Nous jetterons un coup d'œil sur l'état de la liberté de la presse dans le monde, sans oublier les sports et la musique. Mais avant, le journal.
John Kerry, en tournée en Afrique, a appelé à la fin des combats et à une aide humanitaire au Soudan du Sud. Le secrétaire d'État américain est arrivé hier soir à Addis Abeba, Lionel Gaïma.
À l'issue d'une rencontre avec ses homologues éthiopiens, kényans et ougandais, M. Kerry a adressé un message fort aux belligérants sud-soudanais. Il est clair que tout le monde est d'accord pour dire que les tueries doivent cesser, qu'il faut permettre un accès humanitaire aux populations, a-t-il déclaré à la presse. Siège de l'Union africaine, Addis Abeba accueille depuis des mois des pourparlers infructueux entre les gouvernements du président sud-soudanais Salva Kiir et la rébellion dirigée par son rival, l'ex-vice-président Riek Machar. Un cessez-le-feu a été signé le 23 janvier à Addis Abeba, mais il est resté lettre morte. John Kerry doit se rendre samedi à Kinshasa, où il doit rencontrer le président Joseph Kabila. Après une dernière étape à Luanda en Angola, M. Kerry regagnera Washington lundi.
Un journaliste centrafricain a été tué et un autre grièvement blessé dans des attaques séparées à Bangui dans la nuit de mardi à mercredi. Désiré Sayenga du journal Le Démocrate a succombé à l'hôpital des suites de ses blessures. Thierry Mbomba est le rédacteur en chef du Démocrate.
Le journal bouclé, ce confrère rentrait tranquillement à la maison lorsqu'il a été pris à partie, selon lui, par 5 musulmans au niveau du lycée de Fatima qui l'ont d'abord torturé, lui ont asséné des coups de crosse au niveau du cou avant de lui tirer des balles dans l'une au niveau de la poitrine et dans les cuisses et l'abandonnant ainsi pour mort. Ce n'est qu'après la riposte des éléments de la MISCA congolaise qui protégeait l'église Notre-Dame de Fatima que ces éléments-ci vont prendre la fuite et les jeunes qui étaient à l'église vont le transporter à l'hôpital. Il va succomber 24 heures après sa blessure. Le confrère Padou de la radio SK a été également victime d'une agression dont les auteurs ne sont pas encore clairement identifiés, comme tel a été le cas du confrère du journal Le Démocrate qui a identifié agresseurs avant de rentrer dans le coma.
Thierry Mbomba est le rédacteur en chef du journal Le Démocrate à Bangui. La mort du journaliste a suscité une vive émotion dans la capitale centrafricaine, Félix Yepassis Zembrou.
Désiré Sayenga, poignardé puis criblé de balles au PK5, a succombé ce matin dans un centre hospitalier de Bangui. L'émotion est vive au sein de la presse locale, notamment le groupement des éditeurs de la presse privée et indépendante de Centrafrique. Dieudonné Koumbata, secrétaire de rédaction du quotidien Le Démocrate.
Il a succombé parce que le foie était bousillé, le poumon et voire le diaphragme. On a perdu un cadre. Il est une victime des événements que nous vivons en ce moment. La protection est tellement importante, mais quand il y aura la paix, le journaliste peut vaquer librement à ses occupations.
Un autre journaliste, René Padou de la radio SK, est toujours dans le coma après avoir été agressé à son domicile au quartier Bazanga. Et dans le secteur de PK5, la communauté musulmane déplore l'assassinat d'un musulman au quartier Castor. Dans le nord du pays, l'organisation de la résistance musulmane centrafricaine, le tout nouveau mouvement d'Abakar Sabon, demande aux autorités de la transition, la tenue dans un bref délai d'un dialogue politique inclusif pour le retour de la paix.
Salif Sadio appelle au cessez-le-feu en Casamance. Après 32 ans d'un conflit larvé dans la région méridionale du Sénégal, le chef militaire historique du MFDC demande un arrêt des combats. Le mouvement des forces démocratiques de Casamance discute depuis des mois à Rome avec le gouvernement sénégalais. Lansana Goudiaby du MFDC en France confirme cet appel au cessez-le-feu.
Moi, je le confirme, mais si cet appel, c'est Salif Sadio même qui l'a fait appel. Mais seulement, il y a un inconvénient. Le problème que lui, il croit que c'est lui qui est lui, un combattant qui va, et que c'est les combattants qui vont aller négocier. C'est là seulement que nous avons un peu de difficultés. Mais quand même, je crois que dans l'avenir, ça va s'arranger parce qu'on parle tous de la même chose, de l'indépendance de la Casamance.
Lansana Goudiaby, joint à Paris par Nicolas Pinault. Au Nigeria, les familles des jeunes filles enlevées le mois dernier continuent de manifester. Aujourd'hui, les proches des victimes étaient réunis à l'école de Chibok, où les adolescentes ont été kidnappées. Ils dénoncent le manque d'action des autorités et des forces de sécurité. Cela fait plus de deux semaines que ces écolières ont été capturées par les hommes armés, alors qu'elles se trouvaient dans leur dortoir. Plusieurs dizaines de jeunes filles ont pu s'échapper, mais au moins 180 sont toujours portées disparues. On soupçonne les islamistes de Boko Haram d'être derrière ces raptes.
Nouvel afflux de migrants vers Melilla. Des centaines de migrants se sont rués aujourd'hui sur la barrière séparant le Maroc de l'enclave espagnole. Bon nombre d'entre eux sont d'origine subsaharienne. Ceux qui n'ont pas pu réussir à entrer sur le territoire espagnol ont été arrêtés par la police marocaine. 6 migrants et 3 policiers auraient été blessés, d'après l'AFP. Les organisations des droits de l'homme dénoncent régulièrement les violences faites à ces migrants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé à des négociations entre Kiev et les séparatistes pro-russes dans le sud de l'Ukraine. La Russie estime que ce dialogue entre les autorités ukrainiennes et leurs adversaires pourrait être lancé dans le cadre de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Jean-Roger Bion.
Sergueï Lavrov souhaite que les Occidentaux ne fassent pas obstacle à ces discussions. L'appel du chef de la diplomatie russe intervient au moment où des pro-russes ont pris le contrôle d'un bâtiment du conseil municipal de Olivka, au nord de la zone industrielle de Donetsk. Les séparatistes contrôlent désormais une douzaine de villes dans l'est de l'Ukraine, où les rebelles veulent tenir le 11 mai un référendum sur la sécession. Un vote similaire le mois dernier a conduit au rattachement de la Crimée à la Russie. Le président intérimaire de l'Ukraine, Oleksandr Turchynov, a déclaré que son gouvernement est impuissant à réprimer le mouvement séparatiste pro-russe et a de plus en plus du mal à contrôler ses propres troupes.
Un attentat suicide dans le nord-est de l'Afghanistan a fait au moins 13 morts, dont 6 policiers et une vingtaine de blessés. Dans un entretien avec le service afghan de la Voix de l'Amérique, le gouverneur de la province du Panjshir, Abdul Rahman Karimi, a dit que l'attentat a été perpétré par 4 assaillants qui ont également trouvé la mort. La région du Panjshir a été relativement épargnée depuis plusieurs années.
En Irak, le dépouillement se poursuit après les premières législatives depuis le départ des troupes américaines en 2011. Plus de 20 millions d'Irakiens étaient éligibles pour prendre part au scrutin d'hier où ils devaient choisir les 328 membres du Parlement. En dépit d'une forte présence policière et l'interdiction de la circulation automobile dans Bagdad, des actes de violence ont fait au moins 12 morts à travers le pays.
Il a fallu 17 minutes avant que les autorités se rendent compte de la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines des écrans radar. C'est ce qu'indique un rapport préliminaire publié aujourd'hui par le gouvernement malaisien. Le document signale également que l'opération de recherche et de secours n'a débuté que plusieurs heures après la disparition du Boeing. Près de 2 mois de recherche n'ont pas permis de repérer l'appareil ou même ses débris dans le sud de l'océan Indien.
Le président Xi Jinping a promis une action décisive suite à l'attaque à la bombe et au couteau qui a fait 3 morts et 79 blessés hier soir dans l'ouest de la Chine. Cela s'est passé dans une gare ferroviaire de la province de Xinjiang. Selon le journal officiel, le quotidien du peuple, 2 des 3 morts sont des assaillants. L'agence Chine Nouvelle les identifie comme des extrémistes religieux, mais on ignore pour le moment s'il s'agissait d'une attaque suicide.
La Chine a annoncé des manœuvres navales conjointes avec la Russie en mer de Chine orientale, où Pékin est engagé dans une dispute territoriale avec le Japon. Selon le ministère chinois de la Défense, ces exercices réguliers auront lieu à la fin du mois, non loin de Shanghai, au nord de la zone litigieuse. Cette zone se compose d'un groupe d'îles inhabitées, environnées de vastes ressources naturelles et de voies maritimes stratégiques. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. La crise en Centrafrique a fait l'objet de nouvelles audiences publiques ce matin au Congrès américain. Elles étaient organisées par le député Chris Smith, président d'une sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Ces audiences avaient pour thème « du pré-génocide au génocide » avec un point d'interrogation. Compte rendu d'Idrissa Seydoudia.
En novembre dernier, le mot « pré-génocide » avait été prononcé devant le même panel par Robert Jackson, sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Pour le député Chris Smith, la situation a empiré depuis. Peut-on maintenant parler de génocide? J'ai posé la même question à l'officiel américain.
Nous n'avons pas considéré s'il y a un génocide ou pas, mais ce qui se passe est atroce. Et j'insiste sur le fait qu'il y a plus que 2000 morts, 20% de la population qui est déplacée. Ça, c'est une catastrophe. La question clé, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation? Et le mot qu'on utilise, pour moi, est moins important que les faits qui existent en République centrafricaine. Et ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation.
Pouvez-vous revenir spécifiquement sur ce que font les États-Unis pour aider à améliorer la situation?
Alors, il y a une contribution de 100 millions de dollars pour aider les opérations de maintien de la paix. Il y a 67 millions de dollars en aide humanitaire. Et en plus, il y a 7,5 millions de dollars pour aider avec la réconciliation. Alors, ça, c'est seulement depuis le 1er octobre 2013.
L'espoir, a encore dit le sous-secrétaire d'État adjoint américain, est de trouver enfin une solution qui assure la stabilité en RCA pour la première fois depuis son indépendance. Le nouvel émissaire américain Stuart Symington s'évertuera à coordonner la stratégie des États-Unis pour mettre fin à la violence, faire face aux besoins humanitaires, établir une gouvernance légitime, créer des mécanismes judiciaires pour que les coupables de violations des droits de l'homme répondent de leurs actes. Et enfin, aider la RCA à assurer une transition politique inclusive menant à des élections démocratiques. M. Jackson a parlé d'amélioration avec la diminution du nombre de déplacés à Bangui, le déploiement de la MINUSCA à la mi-septembre, dont trouver les effectifs requis pose encore problème. Des soucis ont été exprimés face au risque possible de pérennisation du clivage entre musulmans et chrétiens après les récents déplacements de musulmans vers le nord ou le Tchad. Le rôle des leaders musulmans et chrétiens, non seulement de RCA, mais du reste du monde, a été également évoqué. Et hommage a été rendu au courage des leaders catholiques, musulmans et protestants centrafricains.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué aujourd'hui l'attaque contre des militaires algériens en Kabylie le 19 avril dernier. 11 soldats algériens ont été tués, ainsi que 3 assaillants. Rappelons-le, l'attaque a été menée 2 jours après la présidentielle du 17 avril contre des soldats qui devaient assurer la sécurité du scrutin. Idriss Fall a joint Ali Zawi, spécialiste des questions de sécurité à Alger.
Ce n'est pas le premier attentat en Kabylie. Cet acte condamnable qui a touché 11 militaires dans une zone très sensible, dangereuse, montagneuse, qui relie le QG des 3 wilayas, où abrite encore les groupes terroristes qui sont encore actifs. On peut dire que la présence persiste et la présence du terrorisme dans ces endroits. Il y a un soutien énorme des gens du MAC qui se prétendent encore opposition contre le régime algérien.
Mais est-ce qu'on sait où se trouve Abdelmalek Droukdel, qui est le patron d'ACMI?
Tout le monde en parle de Droukdel. Le problème, ce n'est pas Droukdel. Le problème, c'est ces terroristes qui sont inconnus. Parce que pour Droukdel, il est là quelque part, soutenu par des gens crépusculaires de la région.
Mais l'Algérie a été l'un des premiers pays à avoir subi le terrorisme dans les années 90. On a parlé de 300 000 morts. Mais après autant d'années, est-ce que vous pensez que l'Algérie a fait des progrès dans le combat contre le terrorisme?
Bien sûr, c'est visible. Ce qui se passe maintenant, c'est rien. On sait très bien que le terrorisme en Algérie a disparu, mais il reste quelques crépuscules qui sont encore dangereux. Et on sait très bien que des années 90, le terrorisme faisait la loi. Ce qui s'est passé actuellement à Tizi Ouzou, c'est 10 fois rien ce qui s'est passé avant.
Mokhtar Belmokhtar, alias le Borgne, le patron du groupe Les Signataires par le Sang, il fait reparler de lui, il fait encore allégeance à Al-Zawahiri. Pourquoi maintenant?
Parce qu'on a certaines informations qui circulent, que l'un des chefs d'Al-Qaïda se trouve actuellement en Libye. Et Belmokhtar actuellement se trouve en Libye. Que la Libye, on ne parle pas de la suite du régime libyen, mais aussi on parle de la suite d'un État complet. En quelque sorte, la Libye sans gouvernance. Aujourd'hui, on craint le pire. On craint que le départ d'Al-Qaïda à partir aujourd'hui, c'est depuis l'Afghanistan. Mais maintenant, c'est la Libye, le centre, le QG principal de l'Al-Qaïda en Afrique.
Ça peut être dangereux pour toute la région, ça.
La région et même le Moyen-Orient. À partir de la Libye, avec la libre circulation de 75 millions de pièces d'armes. Ne pas comparaître la situation qui a traversé l'Algérie durant les années 90, où elle était seule contre tous. Ce n'est qu'après le 11 septembre 2001 que tout le monde a ouvert les yeux que le danger pas vient de le terrorisme.
Quand même, John Kerry est venu, si j'ose dire, passer les plaies. John Kerry est venu à Alger quand même vous soutenir, non?
Écoutez, on pense bien que John Kerry est venu pour deux choses. La stabilité de l'Algérie en premier lieu et la situation dramatique en Libye qui inquiète tout le monde. Après la chute du régime libyen et aujourd'hui, c'est la chute de la Libye carrément. Et que la menace provient de la Libye, surtout pour l'Égypte, ce qui se passe actuellement en Égypte. Et l'Égypte ne sait pas encore s'en sortir de ce qui se passe. Et nous risquons de voir les jours très sanglants en Égypte.
Ali Zawi, spécialiste des questions de sécurité à Alger.
En ce 1er mai, le monde célèbre la fête du travail, une journée fériée pour symboliquement déposer les cahiers de doléances des travailleurs. Pour les chômeurs, qui sont nombreux sur le continent, le rêve, c'est simplement de trouver du travail. Nathalie Barge.
Le 1er mai, jour chômé et payé pour les travailleurs salariés, est une journée nettement moins heureuse pour les chômeurs et les millions de personnes qui triment quotidiennement pour un salaire de misère. Selon l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage global en Afrique de l'Ouest dépasse 30% et plus de 10% des chômeurs dans le monde sont sur le continent africain. Les jeunes diplômés au chômage sont de plus en plus nombreux, comme Mariam Gaba à Bamako.
On dit d'aller faire des enseignements par-ci, par-là. On nous maltraite partout parce que ici au Mali, on va te payer une heure par 1500. Raison pour laquelle nous, les jeunes ici au Mali, on n'a pas pu fêter cette fête. Nous ne sommes pas concernés parce que l'État ne nous a pas fait une façon politique générale pour l'emploi des jeunes. On n'a rien vu. On est là, on souffre vraiment. Et nous sommes à la charge des parents. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui devons prendre nos parents en charge. Ils n'ont pas d'autres moyens. Si eux-mêmes nous voyons ici comme ça en train de souffrir, imaginons la vie pour eux. Nous qui devons les prendre en charge, nous sommes à la maison, prendre du thé ou regarder la télé parce qu'il n'y a pas du boulot.
Mariam Gaba était jointe à Bamako. L'Afrique compte 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans et les jeunes sont deux fois plus touchés par le chômage que leurs aînés. Bijou Izouba, diplômée au chômage et mère de famille à Bukavu, dans le sud Kivu.
Il y a 2 ans que j'ai fini les études. Je suis à la recherche du boulot. Je suis en train de postuler par-ci, par-là, où je trouve des modes où je pose ma candidature. Mais chaque fois que je me présente, il y a des conditions qu'on pose qui font en sorte que je ne trouve pas. On demande d'avoir travaillé, parce que moi, je n'ai jamais travaillé. Je viens juste de terminer mes études. Mais on me dit d'avoir l'expérience professionnelle de 5 ans, ce que moi, je n'en ai pas. Et puis, je ne trouve pas de travail que je cherche en ville. Il faut aller travailler dans la brousse. Et en brousse, il y a l'insécurité là-bas. Chaque fois que je cherche un boulot en ville, je ne trouve pas parce que je suis femme mariée tout d'abord et surtout l'expérience professionnelle.
Bijou Izouba était jointe à Bukavu dans le sud Kivu en RDC. Rappelons ici que plus de 168 millions d'enfants travaillent dans le monde. C'est une nette diminution depuis 2000, mais l'OIT précise que ces progrès ne suffiront pas à éliminer les pires formes de travail des enfants d'ici 2016.
Sur la Voix de l'Amérique en direct, chaque soir à 18h30 et 19h30 GMT, Le Monde aujourd'hui présenté par Chérubin Lorsil
et Morgane Guiriec.
Parlons de liberté de la presse, Morgane.
À son niveau, la liberté de la presse est à son niveau le plus bas en plus d'une décennie. C'est ce que constate l'ONG Freedom House. Camille Grosdidier nous en dit plus.
Le constat dressé par Freedom House dans son rapport sur la liberté de la presse est sombre. Elle a perdu tellement de terrain en 2013 qu'une seule personne sur six à travers le monde avait accès à des médias qualifiés de libres. Karine Karlekar de Freedom House.
We see attempts to control or manipulate the message.
On voit des tentatives pour contrôler ou manipuler l'information, donc l'utilisation accrue de la propagande et des tentatives pour influencer le contenu à l'avance. Elle ajoute que les blogueurs ou ceux qui utilisent le web pour disséminer l'information sont harcelés. Dans de nombreuses régions, les gouvernements bénéficient de la complicité des propriétaires des médias. On assiste à des changements dans les directions qui sont suivis de pression sur les journalistes. En bas du tableau, la Corée du Nord est la plus mal classée sur 197 pays. L'Irak n'est pas loin, ainsi que la Syrie. Selon Freedom House, c'est au Proche-Orient que la presse aurait le plus souffert, à commencer par l'Égypte où le régime soutenu par l'armée a sévi contre les journalistes. Seulement 2% de la population du Proche-Orient a accès à des médias libres. Toujours selon Freedom House, la situation est encore pire en Europe de l'Est, notamment en Russie, où des reporters ont été incarcérés, battus ou tués. Et en Ukraine, la presse a été brutalement ciblée durant les manifestations. Les États-Unis ne sont pas épargnés par le rapport de Freedom House. L'administration Obama est accusée d'avoir harcelé des journalistes, notamment en rapport avec des questions de sécurité nationale. À preuve, les poursuites engagées contre un reporter du New York Times et un journaliste de l'Associated Press. La Journée internationale de la liberté de la presse sera célébrée samedi prochain.
Passons tout de suite à l'actualité sportive avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
En football, demi-finale retour de la Ligue Europa.
Battu 2-1 à l'aller, la Juventus de Turin se présente dans son traditionnel 3-5-2 face à Benfica comme à Lisbonne. Et malgré le retour de Vidal dans le 11, Paul Pogba est bien titulaire. 0-0 pour le moment entre les deux équipes. Dans l'autre rencontre, le FC Valence a déjà fait tout son retard et mène 2-0.
Alors, du thé pour Nicolas Morgan, parce qu'il en a peut-être besoin. Un nouvel entraîneur pour le Al Ahly d'Égypte.
Et l'entraîneur Fatima Brouk a pris les rênes d'Al Ahly en remplacement de Mohamed Youssef. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le club égyptien, 8 fois champion d'Afrique. En charge jusqu'ici de l'équipe des jeunes, Mabrouk aura pour mission de mener les Diables Rouges jusqu'en finale de la Coupe de la Confédération africaine.
C'était une journée chargée d'émotions en Italie, on pourrait dire.
Et oui, des milliers de fans se sont réunis sur le circuit de F1 d'Imola, 20 ans, jour pour jour. Après l'accident qui a emporté le Brésilien Ayrton Senna, resté encore aujourd'hui un mythe du sport automobile, des dizaines d'enthousiastes ont pu conduire leur propre voiture autour du circuit Enzo Endino Ferrari pour marquer ce terrible accident du Grand Prix de San Marin le 1er mai 1994. Je ne sais pas si vous vous souvenez où vous étiez, Chérubin, ce jour-là.
Pas exactement.
Moi, je regardais le Grand Prix en tout cas et c'est vrai que c'était...
Ici aux États-Unis, Nicolas, les playoffs de la NBA se poursuivent. On fête ici à Washington parce que pour la première fois depuis 2005, et Lionel Gaïman, notre metteur en onde, est très content, Washington passe à un autre tour dans les playoffs. Alors comment c'était hier soir?
Ouais, c'était une première depuis 2005 pour les Wizards. Alors évidemment, hier soir, ça s'est un peu éclairci, notamment dans le derby texan entre San Antonio et Dallas. 109-103 pour les Spurs qui mènent 3-2 dans la série. Et puis les Canadiens de Toronto ont battu Brooklyn 115-113, mènent 3-2 dans la série. Autre victoire, celle de Houston qui a battu Portland 108-98.
Merci Nicolas Pinault.
Voilà, après les sports, la musique, comme toujours dans Le Monde Aujourd'hui. Et on a, comme d'habitude, Roger Muntou à nos côtés. Salut.
Salut Morgane. Le couple phare du hip-hop américain va entamer une prochaine tournée à travers les États-Unis et le Canada durant l'été 2014. Ça sera trop fort. Une très bonne nouvelle pour les fans du couple formé, bien sûr, de Beyoncé et Jay-Z. Ce sera effectivement l'occasion unique d'aller voir ensemble sur scène. Ce soir, alors, on écoute Bonnie and Clyde.
You ready, B? Let's go get 'em. Look for me, young B, cruising down the west side highway, doing what we like to do. Eyes behind shades, this necklace the reason all of my days been blind days. But today I got my Berowitz girl with me. I'm mashing the gas, she's grabbing the wheel. It's trippy how hard she rides with me. The new Bobby and Whitney, only time we don't speak is during Sex in the City. She gets Carrie fever, but soon as the show's over, she's right back to being my soldier. Cause mommy's a rider and I'm a roller. Put us together, how they gonna stop both us? Whatever she lacks, I'm right over her shoulder. When I'm off track, mommy is keeping me focused. So let's lock this down like it's supposed to be. The O3, Bonnie and Clyde, Hov and B, holla. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend.
Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend.
That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Look for me.
Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend.
The problem is, you dudes treat the one that you loving with the same respect that you treat the one that you humping. That ain't about nothing. If ever you mad about something, it won't be that. It won't be that, I don't be at places where we comfy at, with no be at. Oh no, you won't see that. And no, I ain't perfect. Nobody walking this earth's surfaces. But girlfriend, work with the kid, I keep you working at Hermes Birkin bag, Manolo Blahnik Tim's, aviator lens, 600 drops, Mercedes Benz. The only time you wear a Burberry to swim. And I don't have to worry, only worry is him. She do anything necessary for him, and I do anything necessary for her, so don't let the necessary occur. Yep. All I need in this life.
Alors, cette tournée commune de Beyoncé et Jay-Z est aussi appelée On The Run Tour. Et malheureusement, les organisateurs de l'événement ont proposé des prix qui dépassent l'entendement.
Exactement, très exorbitant ce prix-là. Et sur Twitter, Morgan, les internautes ont partagé leur colère, certes. Il s'agit de Beyoncé quand même et Jay-Z, ensemble sur scène. Mais tout de même, les tarifs affichés sur les différents sites américains sont ridicules d'après les fans. Pour une place ordinaire, Morgan, il faudra compter entre $37 et $222. Ça, c'est ordinaire. Je sais que c'est normal pour Morgane, parce que je vois déjà ce que Morgane fait. Tu veux dire que c'est pas trop cher, c'est ça?
Bah ça commence à $37, donc...
Mais d'accord, 37, t'es où alors, tu vois? T'es où à $37?
Ah oui, bah oui, mais bon... C'est le cas pour beaucoup de concerts, il me semble.
C'est vrai. Mais alors, pour alors voir vraiment au premier rang, alors il faudra compter entre $491 et 1746.
Ah voilà, là, c'est exagéré.
Là, c'est exagéré quand même. Mais voilà, une somme vraiment faramineuse pour les fans qui n'ont pas forcément les moyens de payer. C'est ça aussi le problème, Morgane. Il y a certains qui n'ont vraiment pas les moyens de payer, c'est ça. Mais tu t'es dit à $37, tout le monde peut...
La prestation, voilà, tu y vas pour te dire j'y ai été. Et puis bon, quand même, t'écoutes la musique et tout.
Mais et t'as la chance quand même de voir les deux.
Oui, mais bon, tu les verras de très très loin.
Ouais,
mais tu les vois quand même.
Quand même.
Là, c'était Jay-Z et Beyoncé. Donc, précédemment, le premier titre, c'était Bonnie and Clyde. Merci, Roger.
De rien, Morgane.
Roger Muntou, que vous retrouvez dans quelques petites minutes dans le RM Show.
Et voilà, c'est la fin de cette édition.
Oui, ainsi s'achève Le Monde Aujourd'hui. Merci à toute la rédaction. C'était Lionel Gaïma à la mise en onde. Au micro,
Chérubin Dorsil
et Morgane Diriec. Et on se retrouve demain.
Merci, Zorniak, à la technique.